La semaine dernière, nous avons parlé ensemble de plusieurs choses au sujet de divisions qui, hélas, existent au sein de ce qu'on pourrait à la rigueur appeler le monde chrétien. Nous nous sommes aperçus, après un examen objectif des Écritures, que les sectes ne peuvent se justifier ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de l'observateur extérieur et neutre. Ensuite, nous avons vu que cette situation déplorable sape en réalité l'efficacité de la doctrine de Christ dans le monde. Je vous propose maintenant d'aborder le sujet de la réalité du christianisme. La division du christianisme, en de multiples fractions, telles que nous pouvons les observer dans le monde, ne conditionne nullement son existence, et encore moins sa santé. On prétend que plus une vigne est taillée, plus elle porte, ce qui n'est pas nécessairement vrai. On avance très souvent pour expliquer l'existence des sectes un passage de la Bible dans lequel le Christ dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Comme si Jésus voulait faire allusion aux divers degrés de félicité céleste, mais uniquement à leur nombre. Il y en a autant que de croyants, chacun possédera la sienne dans ce vaste édifice. La réalité et l'actualité du christianisme dépendent de la prédication et surtout de l'acceptation de la semence qui est la parole de Dieu. Mais l'ensemencement a-t-il été confié à une secte en particulier? Si oui, laquelle? Si n'importe laquelle de ces fractions cessait brusquement d'exister, le christianisme disparaîtrait-il? La réponse est bien sûr évidente, c'est non. Cela nous amène à tirer la conclusion qui s'impose. Le christianisme ne dépend pas absolument d'une secte quelconque. Et si nous multiplions cet exemple par 10? Si 10 dénominations du christianisme s'éteignaient aujourd'hui, la religion de Jésus-Christ serait-elle brusquement effacée de la surface du globe? Si le christianisme disparaissait à cause de la chute de ces 10 sectes, nous pourrions logiquement en conclure que toutes les autres n'étaient pas conséquentes ni utiles ni nécessaires. Par contre, si le christianisme continuait à bien se porter après le déclin de ces 10 sectes, nous devrions admettre que ces 10 groupes étaient inutiles. Certains maintiennent pourtant que l'Église du Christ est formée de toutes ces divisions différentes, que cela forme en réalité un tout. Rien n'est moins conforme à la réalité, et je m'explique par une pensée très simple. Si une nouvelle secte était fondée aujourd'hui, elle viendrait, vous serez d'accord, elle viendrait automatiquement s'ajouter à l'ensemble des autres groupes qui, soi-disant, constituent le christianisme. Mais alors, cela prouverait d'une façon absolue que ce christianisme n'était jusqu'à ce jour pas complet, et par voie de conséquence, qu'il ne nous dispensait qu'une partie seulement de la vérité. C'est absurde, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je ne me suis pas pourtant éloigné de la logique des choses. Nombre de dirigeants religieux affirment que chaque fraction enseigne une certaine partie de la vérité, mais que toutes ensemble, elles dispensent la totalité de cette vérité. Que c'est cela qui constitue les vrais enseignements de la doctrine de Christ. Notre bon sens nous prouve cependant que la plupart des choses qu'enseignent ces sectes ne sont pas basées sur des éléments bibliques véritables. La parole de Dieu, et cela constitue une des meilleures preuves de son authenticité, ne se contredit jamais. Pourtant, nous savons et nous voyons d'une manière certaine que les doctrines du sectarisme varient, diffèrent, et la plupart du temps même se combattent. Alors, envisageons un instant une autre possibilité. Prenons le cas d'un homme qui, en toute objectivité, sonderait toutes ces différentes doctrines et n'adopterait uniquement que celles qui seraient sans doute possibles, basées sur l'Écriture. Si cette personne n'acceptait uniquement que les vérités et rejetait les erreurs qui sont prêchées, de quelle secte ferait-il alors partie? Il est évident qu'il ne serait membre d'aucune d'entre elles. Cet homme serait tout simplement un enfant de Dieu, un chrétien dans toute l'acception du terme. Le vrai christianisme n'est pas autre chose que cela. Ça nous amène à dire, par conséquent, que toutes ces multiples fractions ne sont nullement nécessaires à l'existence et à la survie du christianisme basé sur le Nouveau Testament. qu'elles ne constituent pas du tout, de par leur ensemble, l'entièreté de la doctrine de Christ. Paul et Pierre, ainsi d'ailleurs que tous les fidèles du premier siècle, n'étaient que des chrétiens. Ils n'étaient membres d'aucune secte. Le christianisme, dans toute sa pureté, existait des siècles et des siècles avant la fondation de la première d'entre elles. Mais posons-nous maintenant une autre question. Puisqu'on pouvait devenir chrétien il y a plus de 19 siècles, sans pour autant faire partie d'une secte, pourquoi ne peut-on pas faire la même chose maintenant? Mais on peut. Des centaines de milliers de personnes dans le monde l'ont fait et le font encore. Il est possible encore de nos jours de prêcher toute la vérité que contient la Bible et on peut pratiquer tous ces précieux enseignements. Qui prêche cette vérité? Qui la pratique, demanderez-vous? Mais tout simplement les chrétiens, selon le Nouveau Testament. Le sectarisme n'est pas plus nécessaire à l'existence du vrai christianisme qu'à l'obtention de n'importe quelle bénédiction spirituelle. De même que les bénédictions physiques sont vitales pour notre corps, de même les bénédictions spirituelles sont absolument nécessaires à l'esprit de l'être humain. Ces bénédictions en Christ comportent trois grands principes. Premièrement, les bénédictions spirituelles renferment ce que nous recevons. Quand on est sauvé, en ayant été baptisé, immergé, on obtient la rémission de nos péchés, le don du Saint-Esprit et la promesse de la vie éternelle. Deuxièmement, les bénédictions spirituelles comportent ce que nous devenons. Dès l'attribution du salut par la grâce de Dieu, on devient un enfant de Dieu, un chrétien. On est ajouté par le Seigneur lui-même à son Église. On n'appartient pas à une certaine marque ou à une certaine catégorie de christianisme. Non, on devient tout simplement un chrétien. Troisièmement, les bénédictions spirituelles impliquent ce que nous sommes. Par notre conformité à la volonté de Dieu, on entre en Christ. On le revêt en passant une alliance effective quant à nos relations avec Dieu. L'apôtre Paul écrit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mes chers auditeurs, pour recevoir ces dons de Dieu, nous n'avons nul besoin de faire partie d'une dénomination quelconque du christianisme. Absolument pas. L'immense majorité des dirigeants des différentes fractions de notre religion proclament à qui veut bien l'entendre qu'on est en réalité sauvé avant d'appartenir à leur église ou à leur groupement. Mais nous pourrions nous demander alors quel avantage réel a-t-on de se joindre à eux? Serait-ce pour obtenir le pardon des péchés? Pour devenir un vrai enfant de Dieu, un simple chrétien? Doit-on faire partie d'une secte quelconque pour pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu et s'allier avec lui? Qui oserait affirmer une telle chose? Et pourtant, quand on examine tout cela d'un tant soit peu plus près, on s'aperçoit très vite qu'il s'agit là en réalité des choses préalablement requises avant de pouvoir prétendre être membre à part entière de la plupart des sectes et de bénéficier de leur pleine fraternité. D'autre part, si on peut obtenir ces bénédictions spirituelles en dehors de ces sectes, alors pourquoi sont-elles divisées entre elles? Et pourquoi vont-elles même jusqu'à se combattre si vigoureusement parfois? Durant la dernière guerre en France, on parlait beaucoup du retour à la terre, qui devait constituer un retour aux sources, une sorte de revirement vers un certain concept de rapprochement des choses simples et pures de la nature. Cela se retrouve dans une des innovations essentielles de la révolution culturelle chinoise, où tous les intellectuels doivent maintenant retourner à la glèbe durant une période déterminée. Même les hauts cadres sont astreints à cette cure de contact avec les réalités de la simplicité des origines. Ne serait-il pas grand temps pour nous qui prétendons vouloir nous rapprocher de Dieu, de revenir également vers les origines du christianisme? Ne croyez-vous pas que le monde a besoin d'une sorte de révolution spirituelle? Oui, nous avons grand besoin de secouer le lourd fardeau des doctrines, des dogmes, des théories humaines qui pèse si lourdement sur nos épaules pour remonter enfin vers ce qui est simple, beau, pur, vivifiant, la seule volonté de Dieu, dont l'homme a fini, hélas, par oublier l'existence. Jacques nous parle de celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Peut-être êtes-vous celui-là ou celle-là. Pourquoi alors ne pas venir avec nous sur ce sentier étroit, mais si beau, croyez-moi, si rempli de promesses divines et qui mène vers la vraie vie spirituelle, à la fois simple et majestueuse, douce et parfois rude, mais qui est empreinte de tant de joie, de tant de paix. Jésus promet que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voulez-vous boire de cette eau-là, et seulement de cette eau-là ?